Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Le journal L'Express révèle ce matin qu'une offensive existe sur les réseaux sociaux pour encourager la pratique de l'islam à l'école. Porte des vêtements religieux, incitation à la prière dans les classes, obligation pour les jeunes femmes à porter le voile toujours dans le cadre scolaire. L'Express rapporte une note du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, le CIPDR, daté du 27 août. Que l'hebdomadaire a pu consulter et qui évoque cette offensive menée sur le web visant à déstabiliser l'institution scolaire. Information confirmée par le recteur de l'Académie de Dijon, Pierre Engan. Il a écrit à ses chefs d'établissement le 6 septembre et il met en garde notamment contre les appels à la prière dans les collèges ou les lycées. Phénomène sporadique ou influence grandissante de l'islam à l'école, eh bien, nous en parlerons ce matin, mais pour le moment, il est 9h pile, donc c'est Audrey Berthaud.
Le procès Milas, la conductrice du car scolaire entrée en collision avec un train en 2017, est jugé depuis lundi à Marseille. Hier, la conductrice s'est effondrée en sanglots, nécessitant l'intervention des pompiers. Nadine Oliveira n'arrive toujours pas à expliquer la collision qui a coûté la vie à 6 collégiens. La suite du procès a donc été reportée à lundi. Les référendums d'annexion à la Russie ont commencé ce matin dans 4 régions ukrainiennes, Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporijjia. Les résidents ont jusqu'à mardi pour voter. Pour attirer un maximum de personnes, le dernier jour de vote sera férié et des bureaux de vote ont également ouvert en Russie pour permettre le vote à des réfugiés qui ont fui les combats. Enfin, du football, l'équipe de France s'est imposée 2-0 hier soir contre l'Autriche. Des buts signés Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Les Bleus remontent donc à la 3e place du classement en Ligue des Nations.
Estelle Dupont, Charlotte Dornelas, Laurent Geoffrin et Georges Fenech que vous connaissez. L'islam à l'école, on va en parler dans une seconde, mais nous avons choisi d'ouvrir avec un sujet un peu plus léger et intéressant et de notre époque. Roméo et Juliette. Roméo sans Juliette, devrais-je dire, puisque c'est le ballet de Benjamin Millepied. Après 2 reports pour cause de Covid, Benjamin Millepied présente sa vision du ballet Roméo et Juliette avec sa compagnie de Los Angeles. Il l'inscrit dans l'époque sur la musique de Prokofiev en transcendant les genres et en utilisant notamment la vidéo. Hier, et on va voir un sujet dans quelques secondes, Roméo est incarné par un danseur noir et on cherche Juliette des yeux lorsque finalement entre un jeune barbu qui est joué par Mario Gonzalez et 2 danseuses. Ça finit par nous éclairer. Le couple d'amoureux maudits est incarné par 2 hommes. C'est donc Roméo sans Juliette. C'est une... Vous pourrez vous souriez.
Parce que c'est drôle.
Oui, bien sûr, c'est drôle. Le ballet va se jouer jusqu'au 25 septembre 2022. Je voulais qu'on voit ce sujet et les réactions, je trouve très intéressantes, les réactions des spectateurs.
Déçus et surpris par cette version revisitée de Roméo et Juliette, certains spectateurs ont quitté la salle plus tôt que prévu.
Une horreur. Hein ? Vous saviez que Juliette est un homme ? Moi, je ne savais pas.
Le chorégraphe Benjamin Millepied a voulu casser les codes avec une création originale, mais l'œuvre n'est pas au goût de tous.
Très mitigé, on ne s'attendait pas à ça, en fait, en regardant l'affiche, tout simplement.
Ouais. En fait, sur l'affiche, il y avait un homme et une femme, et du coup, on était un peu surprise que ce soit 2 hommes, mais bon...
Pourquoi pas ?
Voilà. C'était original.
D'autres, en revanche, ont salué la créativité du chorégraphe français et le talent de ses danseurs originaires de Los Angeles.
Ah ben, nous, on est très contentes. On a adoré.
C'était génial, très original. On a mis du temps, mais au final, après, on identifie. Et c'est très original. Et l'interprétation, enfin, tout l'univers, en fait, est complètement différent de ce qu'on attend.
Benjamin Millepied et sa troupe se produisent à la scène musicale jusqu'à dimanche. Ils présenteront une nouvelle création en octobre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris.
Benjamin Millepied est un chorégraphe qui a un immense talent et le spectacle est une vraie réussite. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans les réactions des spectateurs, et souvent je vous donne ma lecture de la société, c'est générationnel. C'est-à-dire que vous avez vu ces deux dames qui sortent, qui ont passé 60 ans, je pense, et qui disent « Oh, c'est une horreur !» Et puis vous avez vu ces jeunes qui disent « Oh, c'était très intéressant !» Et on voit bien que sur la société, cette lecture générationnelle, elle est décisive.
Oui, oui, c'est vrai. Oui, j'ai remarqué aussi. Hein. Mais bon, c'est un spectacle qui a déjà été donné aux Nuits de Fourvière de Lyon, qui a eu un gros succès. Moi, je pense qu'il faut, faut respecter la création artistique. C'est pas une dénaturation, à mon avis. Hein. Non, ben, on peut avoir des avis opposés. C'est une relecture, une revisitation par un artiste contemporain aujourd'hui.
Ah, c'est pas le Roméo et Juliette de Shakespeare, non, mais en soi, deux familles s'opposent.
Laissez vivre la création artistique.
Mais oui, tout le monde s'accorde pour dire que c'est un. Oui. Ces cas-là qui disent qu'ils s'inspirent, mais c'est voilà,
mais
c'est
cette mode
de la
dit.
Déconstruction.
Je pense pas que
voilà, où il est important que surtout on ne distingue plus les genres ni les générations, parce que sinon.
Est-ce que c'est une œuvre militante?
C'est pas la première fois qu'on réinterprète du Roméo et Juliette. Quand on a fait West Side Story, c'était pas du tout le cadre d'origine, ni les personnages, ni les. C'était la même histoire, mais c'était West Side Story.
Non, mais il faut arrêter de se cacher derrière son titre. On comprend très bien le message qui est évidemment d'aller dans le sens de la confusion des genres.
Mais pourquoi vous dites la confusion ? C'est pas une confusion. C'est en fait que ce soit deux hommes ou un homme et une femme ne change rien à l'opposition de deux familles qui ne s'aiment pas avec un amour au centre.
Bien entendu, et j'irai même plus loin, ça ne change rien à la confusion parfois des sentiments, la difficulté de l'état amoureux. En revanche, jusqu'à nouvel ordre, un homme n'est pas une femme et ça n'est pas interchangeable.
Mais personne ne dit le contraire.
Si, je vais rendre le message. Ah, si on dit pourquoi Roméo et Juliette, c'est deux hommes.
C'est-à-dire qu'il ne choisit pas, parce que moi, la liberté de création, j'ai aucun problème, mais qui crée quelque chose d'autre. Quoi. Un homme n'est pas une femme, et là, c'est exactement le message qu'il donne. Ça revient au même, et d'ailleurs, c'est exactement ce que vous venez de dire.
Opinion,
ça revient au même et ça ne change rien.
Non, je dis ça ne change rien au conflit de deux familles qui peuvent s'opposer parce qu'elles ne s'aiment pas, alors que leurs deux enfants s'aiment. C'est ça l'histoire de Roméo et Juliette.
Il y a une volonté, précisément, de reprendre ces œuvres-là et de les remettre au goût du jour via, en effet, la confusion des genres, c'est la nouvelle mode sur cette lecture non-genrée des personnages, et c'est la volonté évidemment de reprendre ces œuvres et non pas d'en créer. Remarqué.
Ah, c'est une de revisiter, pourquoi pas.
Il ne faut pas être naïf, c'est de les déconstruire, c'est-à-dire
mais
que
pas, pourquoi déconstruire
la culture, l'histoire, la mémoire n'est plus de sens à l'école. On leur enseigne l'idéologie LGBTQ. Je suis désolée, le sexe n'est pas une opinion, c'est un fait biologique.
C'est oui, marrant parce
genre,
que
non.
Le genre est un fait biologique. Ah bah voilà, on est petit garçon, on est petite fille.
Vous réagissez comme
on devient homme, on devient femme.
C'est marrant parce que
la loi de la biologie. Que des adolescents regrettent d'être nés filles ou d'être nés garçons, c'est une chose. Que les parents les accompagnent pour accepter leur genre, c'est très bien. Qu'on érige en idéologie et en nouvelles normes une pathologie mentale qui est de se croire homme quand on est une fille ou l'inverse, ça n'est pas normal. Et ça envahit la culture, ça envahit l'école, c'est problématique.
Vous avez qu'on a une loi qui s'appelle le mariage pour tous.
Et alors ? Mais quel rapport ? Ça n'a rien à voir. Vous mélangez les questions de genre et l'homosexualité.
Non, je ne mélange pas du tout.
Bon, en tout cas, ce qui est amusant, c'est.
Il y a aussi la possibilité d'avoir le spectacle avec deux femmes. Pas uniquement avec deux hommes.
Ah bon, bah alors ça va. C'est bon, la parité est respectée. Alors.
Enfin, ce qui est marrant, c'est combien je suis moi très conservateur sur les sujets de société française, quoi, de société française, d'histoire française, de culture française, autant sur tous ces sujets-là de société, je suis extrêmement, je suis plus proche de Laurent Geoffrin par exemple que de.
Bah, donc pardonnez-moi, mais sur ce plateau, vous remarquerez que les générations sont un peu renversées.
Oui,
c'est ça, c'est ce que je disais.
Donc, oui, finalement. Au fond, je trouve ça bien. Voilà.
Ah oui. Mais bien, je trouve vous trouvez ça bien qu'un homme et une femme se soient interchangeables.
Mais c'est pas du tout ce qu'est ça. Je trouve intéressant de revisiter cette histoire pour les gens que j'ai dites qui ne change rien à deux familles qui s'opposent avec au centre deux enfants qui s'aiment et que ce soit deux hommes ou un homme et une femme. Effectivement, ça ne change rien, me semble-t-il. Mais bon, c'est tout ce que je veux dire. Et puis, je trouve que le spectacle est réussi.
Ouais. Quand on distingue sexe et genre, on distingue la biologie et la culture. C'est ça. C'est qu'il y a dans le statut des femmes quelque chose de culturel, pas seulement biologique. Ce n'est pas la biologie qui commande tout ce que font et ce que sont les femmes. Non, et c'est au nom de la biologie qu'on a justifié le rôle second de la femme.
Donc non, méfiez-vous de la biologie. Absolument pas.
Comment ça, absolument pas,
absolument pas au nom de la biologie.
Mais, c'est, mais si, c'est,
mais non,
c'est
la biologie donne
on dit la nature fait que les femmes ont un rôle second. Ça a été comme ça pendant des millénaires. Donc maintenant, c'est en train
des
de changer.
Millénaires, des millénaires et des millénaires. Et d'ailleurs, bon. On vit dans un village au fin fond du Pakistan. Quoi. Nous, on peut à peine ouvrir la bouche. On doit vous demander l'autorisation avant. Moi, je n'ai jamais vécu dans ce monde-là, en fait. Donc, non, personne
n'a jamais dit. Vous n'avez pas remarqué que les femmes n'avaient pas exactement les mêmes droits au fil
non,
de
mais
l'histoire
attendez,
ça vous a échappé.
La question des droits, il y a la
que
question de la place.
Le droit de vote a été donné en 1945, c'est un peu
époques,
tard.
Il y a la question des époques. On pourrait parler du Haut Moyen-Âge et de la Renaissance.
Non, mais
oui, il y a des régressions à travers
Laissez parler Charlotte.
Oui, il y a des régressions à travers les âges. Là, ce que je vois, vous faites semblant de ne pas comprendre. Pardonnez-moi. Vous avez vu toutes. Vous avez vu toutes les réactions à la sortie du spectacle. Les gens vont voir le spectacle. On s'attendait pas à ça. Donc, il y a une volonté, évidemment, de surprendre la personne qui vient voir en lui disant, ça, mais vous voyez, finalement, un homme et une femme, c'est la même chose. Et vous remarquerez que ça pourrait devenir intéressant. On se dit, finalement, les deux familles, en effet, l'opposition, c'est la même chose. Si c'était original, à force, c'est juste lourd, en fait. C'est plus original. C'est
bon.
Tout.
Écoutez. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Et passons donc à cette révélation du journal L'Express. Et je salue Amandine Hiroux du journal L'Express, puisque c'est elle qui a révélé cette note confidentielle. Une note des services de l'État datée du 27 août évoque en détail une mobilisation de la sphère islamiste sur les réseaux sociaux ciblant la laïcité à l'école. À l'approche de la rentrée scolaire, plusieurs messages sur les réseaux sociaux de comptes gravitant autour de la mouvance islamiste remettent en cause le principe de la laïcité. C'est le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, je l'ai dit. Voyez le sujet de Sandra Tchoumbo. C'est un sujet de Reda Emrabit, finalement, me dit Marine Nanson.
Ces tenues sont interdites dans les établissements scolaires et pourtant, elles sont de plus en plus présentes à l'école. 144 entorses à la loi sur la laïcité à l'école ont été répertoriées ces trois derniers mois. Soit une augmentation de 48% entre le premier et le deuxième trimestre de cette année. Et l'écrasante majorité de ces entorses à la loi concerne les tenues islamiques, avec des jeunes influencés par les réseaux sociaux.
Les causes immédiates, c'est par exemple les nouveaux imams et les nouveaux hajj, c'est-à-dire les jeunes qui sont allés à la Mecque 2.0. Vous verriez sur TikTok l'audience incroyable de certains de ces petits barbus et de ces filles voilées qui font du prosélytisme actif et qui sont devant la vraie retraditionnalisation.
Et les tenues islamiques ne sont pas les seuls problèmes à l'école.
Il faut y ajouter tous les incidents liés à la laïcité, tous les incidents liés à la contestation des enseignements et tout ce qu'on appelle les signaux faibles, des garçons et des filles qui ne veulent plus s'asseoir ensemble sur le fil de mixité, voilà.
Concernant les tenues islamiques, des phénomènes ont été constatés dans plusieurs régions de France, notamment à cause de la méconnaissance des élèves concernant la loi sur la laïcité de 2004.
Je voulais vous montrer d'abord le factuel de cette note confidentielle, mais vous avez vu ce sujet que nous avions passé déjà en fin de saison dernière, qui soulignait déjà les manquements à la laïcité dans l'école, vous l'aurez compris, avec Reda Emrabit. On va être avec M. Brighelli dans une seconde. Ce qui est intéressant dans cette note, c'est que la note donc évoque l'émergence d'une possible nouvelle tendance à ce stade encore marginal, est-il écrit, mais prise très au sérieux par le CIPDR, le chantage à la photo, via la plateforme Snapchat. Dans certains lycées, des jeunes femmes dévoilées qui portent le voile à l'extérieur de l'établissement sont photographiées dans le but d'exercer sur elles une pression ultérieure. Je précise que c'est une note des services généraux de l'État. Ce n'est pas une enquête journalistique que je vous dis ça. En toile de fond, tous ces messages, une remise en cause donc de la loi de 2004 et la note pointe également le collectif contre l'islamophobie en Europe, le CCIE, qui a remplacé le collectif contre l'islamophobie en France après la dissolution de cette dernière. C'est-à-dire qu'on dissout le CCIF et il est remplacé immédiatement par le CCIE. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la réalité de ce pays. Le CCIE multiplie ces derniers mois ses appels à témoigner de situations qualifiées d'islamophobes, notamment lorsque des jeunes filles se voient refuser l'accès à leur établissement scolaire en raison du port de voile. Ces accusations trouveraient des relais de plus en plus croissants auprès du personnel des établissements scolaires qui, anonymement, remettent en question la neutralité religieuse à l'école, etc. etc. Et j'ai cité tout à l'heure le recteur de l'Académie de Dijon, qui a écrit le 6 septembre une note pour ses directeurs d'établissement. Alors on est avec M. Brighelli, que vous connaissez. Commentaire peut-être sur ce phénomène, c'est la question que je posais. Est-ce un phénomène sporadique ou est-ce une influence grandissante de l'islam à l'école?
Bonjour Pascal.
Bonjour, et je rappelle que vous avez été prof longtemps au lycée Thiers de Marseille, que vous êtes aujourd'hui en retraite.
C'est une vague de fond qui a commencé en fait en 2011 au lycée Blanqui à Saint-Ouen. Vous dire à quel point ça n'a rien à voir avec l'actualité présente, ce sont des petits pas qui deviennent des grands pas petit à petit. En 2011, les quelques lycéennes qui arrivaient avec ces tenues islamiques ont été soutenues par Abdelhakim Sefrioui. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'était l'homme qui était venu faire un scandale au collège de, où enseignait Samuel Paty, et qui est actuellement en prison pour complicité de meurtre. Vous voyez, il s'agit vraiment de l'islam le plus fondamentaliste, le plus borné que l'on puisse imaginer. Je dois dire très franchement que dans le contexte actuel, quand on a des jeunes filles qui sont tuées en Iran parce qu'elle proteste contre le port du voile, qu'il y en a une qui a été battue à mort par les gardiens de la République islamique, etc. C'est honteux, absolument honteux, c'est répugnant même de voir des jeunes filles qui s'affichent avec des tenues au nom de leur liberté cultuelle, comme elles disent. Parce que selon elles, c'est de la culture, ce n'est pas du culte. Alors c'est un genre d'hypocrisie sur lequel s'appuient tous les réseaux islamistes depuis des années pour dire « mais non, nous avons des lieux de culture, pas du lieu de culte ». Il faut impérativement sévir, et d'ailleurs le ministère, malgré la façon dont Pape Ndiaye lui-même a dit « oui, mais c'est quelques cas sur 60 000 établissements, etc. », mais le ministère a émis une note très nette, que vous évoquiez là à l'instant, sur le fait qu'il n'y a pas de demi-mesure, il y a une loi de 2004, et je dois dire très franchement que je connais quelques enseignants, en particulier du syndicat Sud, qui militent pour l'abrogation de cette loi de 2004, dans un monde bien fait, ils seraient révoqués.
Bah merci de cette analyse. Pape Ndiaye, qui effectivement avait été interrogé le 4 septembre, et il avait affirmé qu'il se garderait bien de généraliser ces phénomènes. C'est vrai que peut-être ne prend-il pas la mesure de ce qui peut se passer. Commentaire autour de...
Moi, je pense qu'il faut être intransigeant sur ces questions et que l'école est laïque. Donc la religion n'a rien à faire dans la définition des programmes ou de la pédagogie. Voilà ma position.
Que moi, il y a un autre facteur qui m'inquiète, au-delà de cette influence extérieure qui peut pénétrer dans ce qu'est le sanctuaire, normalement, l'école, c'est que les élèves eux-mêmes, souvenez-vous, on a eu des sondages il y a quelques années, il y a quelques mois, où les jeunes élèves d'aujourd'hui ne comprennent pas cette loi laïcité et ne verraient aucun inconvénient à ce que des lycéennes, des collégiennes viennent voiler. C'est ça, c'est le phénomène de société, plus que la loi, je dirais, qui est attaquée de toutes parts et qu'il faut préserver, bien entendu, avec, vous avez raison, avec la plus grande fermeté, c'est que fondamentalement, les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent plus l'utilité.
Parce que vous avez une culture nouvelle, des pratiques nouvelles, et moi j'ai souvent parlé du sport ici, et parce que le sport, il y a beaucoup de jeunes musulmans qui pratiquent du sport. Ils sont souvent d'ailleurs majoritaires, notamment dans les clubs de football. Donc vous avez une culture nouvelle dans les clubs de football, des pratiques nouvelles, un rapport au monde qui peut être nouvelle,
à tel point
qui peut être nouveau.
On leur fait signer aujourd'hui des chartes aux clubs de foot, notamment.
Bien sûr.
La laïcité pour pouvoir percevoir des subventions.
Bien sûr, bien sûr.
Mais je pense que l'erreur et la naïveté, c'est de penser qu'on pourra lutter contre ça avec la notion de laïcité. On voit bien qu'elle est trop faible, la notion de laïcité. Là, il s'agit tout simplement de la République. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sont dans l'islam politique, qui veulent que les lois de la République soient inférieures aux lois de la charia. Et quand on leur brandit le mot vide et le mot valise de laïcité, ça ne peut pas fonctionner.
Mais je suis même pas sûr que ce soit des
statuts scolaires en matière religieuse.
Je suis même pas sûr que ce soit des militants politiques. C'est une autre culture.
Oui, mais
c'est pas des gens qui sont militants. Vous savez, moi, je connais beaucoup de jeunes footballeurs. Ils sont pas militants. C'est un rapport à la vie qui est différent.
C'est
pour
une
eux
anthropologie qui n'est pas compatible avec
les lois de la République. Oui, mais ils ont été élevés avec d'autres valeurs, d'autres cultures et d'autres influences. Non, et aujourd'hui, c'est pour eux, c'est normal d'être comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de militantisme forcément là-dedans. Je voudrais qu'on écoute simplement Pape Ndiaye, parce qu'il y a deux sons de Pape Ndiaye quand même qui doivent faire réfléchir sur qui est cet homme. Qui est cet homme? Parce qu'il est ministre de l'Éducation nationale. Moi, il y en a un récent, en Virginie. Il est allé en Virginie pour dire que la France est raciste. C'est quand même très très étrange comme position. Et puis après, je vous montrerai ce qu'il avait dit dans un document d'archives sur les minorités. Et à l'aune de ces deux documents, peut-être on peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
Le concept de race, comme vous le savez, est encore très sensible en France. Nous sommes actuellement dans un contexte politique où les organisations d'extrême droite sont puissantes, comme aux États-Unis d'ailleurs. Et il est très difficile d'aborder les questions ethno-raciales de manière nuancée et complexe. Et je peux vous parler du prix à payer si vous osez parler de ces inégalités ethno-raciales. Notre système éducatif reste massivement gratuit, contrairement aux États-Unis, de la maternelle à l'université, mais la réalité incite à une approche plus concrète que les idéaux. Les inégalités, les discriminations, les différentes formes de racisme existent en France, bien sûr, malgré nos idéaux.
Je m'étonne que le ministre de l'Éducation nationale...
Il n'a pas dit la France est raciste, il dit que ça existe en France.
Je m'étonne que le ministre de l'Éducation nationale s'exprime en anglais, en Virginie, pour critiquer la France, sur la France. Je m'en étonne. Je trouve ça pour
il a fait une partie de sa carrière aux États-Unis, vous savez.
Il est ministre de l'Éducation nationale. Moi, je trouve ça très choquant. Mais je trouve ça extrêmement choquant. Mais bon, ce n'est que mon avis. Et je voudrais vous faire écouter ce qu'il disait il y a quelques temps, lorsqu'il n'est pas ministre encore de l'Éducation nationale, sur ce que doivent être les minorités actives.
Je fais partie du conseil scientifique du CRAN, qui est indépendant du CRAN, mais qui est constitué d'universitaires et d'intellectuels en général qui manifestent leur soutien au CRAN sans en être partie prenante. Si on devait utiliser un terme pour me qualifier, je serais une sorte de compagnon de route. Je suis favorable, avec beaucoup de mes amis universitaires, à l'organisation politique des minorités. Non pas parce que je considérerais que les minorités devraient se séparer de la société française ou constituer des identités propres, mais parce que je pense que la meilleure manière de lutter contre le racisme et les discriminations passe par l'organisation politique des minorités.
J'ai pas l'impression de vivre dans le même pays que lui. Hein.
Non, mais
franchement, quand
c'est
je pense à la France,
cette intervention est sidérante.
La France de l'Atlantique. Non, mais
je peux dire une chose. Oui. Il y a des discriminations en France, c'est vrai. Sur le logement, sur le travail,
de regarder les systémiques en France.
Je dis pas systémique, j'ai pas dit systémique, j'ai dit qu'il y avait des discriminations.
Regardez un petit peu la carte de la France, l'Atlantique au Pacifique, avec les Antilles, la Réunion, etc. Vous avez le sentiment qu'il y a du racisme.
Mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des discriminations.
Mais il peut y avoir des discriminations.
Il y a des discriminations. Oui, mais le problème vient de là.
Mais on n'est pas aux États-Unis.
Il n'y aurait pas, il n'y aurait pas de problème.
Il a une vision américaine. Il y a
Charlotte Dornelas.
Non, il dit c'est un peu normal que certaines minorités qui se sentent discriminées s'organise pour ne plus l'être.
Oui, bah c'est 100%
c'est un peu normal,
américain.
Ça. Hein.
C'est 100% évidemment américain. L'organisation politique.
Mais donc ils n'ont rien à dire.
Charlotte Dornelas.
Ils doivent s'écraser, quoi.
C'est Charlotte Dornelas. C'est absolument américaine. Et quand vous regardez dans le parcours même de Pape Ndiaye, il le dit lui-même, sa sœur l'explique très bien.
Marie Ndiaye qui a eu le prix Goncourt. D'ailleurs.
Voilà. Et elle l'avait dit elle-même quand il a été nommé. Nous n'avions jamais connu le racisme en France et nous avons compris la question des discriminations et la nécessaire organisation des minorités contre.
Donc il n'y a pas de racisme en France.
Laissez terminer.
Voilà une déclaration intéressante.
Laurent, attendez, franchement, laissez terminer. C'est pas convenable. Vous interrompez toujours.
On vous propose un sujet et vous prenez un mini-sujet qui a vaguement un lien pour expliquer qu'en fait, il n'y a pas l'énorme sujet au milieu de la place qu'on est en train de vous mettre en face du nez. Donc vous voyez bien que là, la question de la lecture politique d'une discrimination systémique, puisque si les minorités doivent s'organiser contre la majorité pour exister politiquement, c'est autre chose que de dire à la marge, oui, tel ou tel peut avoir un comportement discriminatoire ou être raciste même. C'est une différence quand même de point de vue, vous êtes d'accord ?
Je peux répondre ?
Oui.
Je ne crois pas que ce soit un phénomène marginal. C'est ça la différence. D'accord. Quand on dit les discriminations, c'est un phénomène marginal, c'est un petit problème, un vaste problème. C'est que les minorités veulent s'organiser, c'est ce que vous venez de dire. Je crois que vous vous trompez. Je crois que vous sous-estimez le fait qu'en matière de logement, en matière d'emploi, en matière de c'est déjà beaucoup de choses. C'est déjà beaucoup de choses. Vous pouvez constater, il y a eu des tas d'études là-dessus. Il y a eu des testings sur le, quand on a un nom à consonance africaine ou étrangère, on a du mal à trouver un logement. Et c'est fréquent. C'est
la pause.
Je dis pas que c'est systémique, mais c'est fréquent.
La pause.
C'est pas marginal, et donc c'est normal que les gens.
Malheureusement,
c'est normal que les gens s'insurgent.
Comment ? Je crois que c'est pas le problème de Papendieck.
Mais on va en parler. On va en parler après la pause.
Non, non. C'est le problème qui pose. Non, mais c'est un masque.
C'est pas le problème qui pose, mais vous.
Mais si, c'est le problème qui pose. Qu'est-ce que c'est le problème qui pose ?
Absolument pas le problème.
Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de racisme.
Non, mais comme vous parlez, on peut pas vous dire ce qu'on pense.
Manifestement.
Je parlais parce que je répondais.
Manifestement, ce pays qu'il critique a permis à Papendieck d'être ministre de l'Éducation nationale et à sa sœur d'être pris
Goncourt.
Ça s'appelle l'égalité des chances.
Voilà. Donc, et pourquoi ? Parce que l'un et l'autre ont du talent simplement et de la qualité. Voilà. La pause, nous revenons tout de suite. Il est 9h30, Audrey Berthaud.
L'épidémie de Covid repart à la hausse. On va voir ensemble les derniers chiffres de Santé publique France. Plus de 38 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Le taux de reproduction est de 1,4, ce qui veut dire qu'une personne malade en contamine plus d'une autre. Et enfin, le taux d'incidence est de 308 contaminés sur 100 000 habitants. En Iran, les protestations continuent après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs. Au moins 17 personnes sont décédées. Selon un bilan d'un média d'État, les autorités ont décidé de bloquer l'accès à certains réseaux sociaux. Le décès de la jeune femme de 22 ans a suscité une vague de colère en Iran depuis plusieurs jours. Enfin, l'ouragan de catégorie 4, Fiona, est attendu aux Bermudes aujourd'hui. Les 64 000 habitants de ce territoire britannique se sont réfugiés chez eux hier soir. L'ouragan devrait apporter de la pluie et provoquer une montée du niveau des eaux avec de grandes vagues destructrices selon les prévisions météorologiques.
La laïcité à l'école mise à mal avec cette note qu'a révélée le journal L'Express. Une note des services de l'État datée du 27 août évoque en détail une mobilisation de la sphère islamiste sur les réseaux sociaux ciblant la laïcité à l'école. Et puis nous avions dévié sur le rôle du ministre de l'Éducation nationale qui ne prend pas la mesure de ce qui se passe, qui évidemment intervient peu, et qui explique que c'est tout à fait marginal. Si vous avez une conclusion à faire sur ces sujets, ou pas, et sur sa position ou pas par rapport à ce que nous disions en première partie.
C'est pas marginal, il a tort.
Comment ?
C'est pas marginal, il y a eu des bouquins.
Non, je dis pas que c'est marginal, il pense que c'est marginal.
Non, mais il a tort.
Oui.
Comme vous me demandez, c'est...
Oui,
j'en pense, mais je pense qu'il a tort.
Oui, vous pensez qu'il a tort.
Oui. Non, mais cela dit, c'est, en fait, même si c'est, parce que même dans le document en question, ils disent que c'est assez sporadique, enfin, je ne sais plus quel est le mot qu'ils utilisent, mais ce qui est sûr, c'est que c'est croissant, donc ça doit nous inquiéter avant que ce soit majoritaire, tant qu'à faire. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que moi, dans le...
Il ne faut pas généraliser, a-t-il dit.
Non, mais sans généraliser, il peut se préoccuper d'une chose qui n'est pas encore généralisée. Enfin, je ne sais pas, c'est un peu absurde.
Il y a eu une enquête auprès des professeurs. Où 25%, enfin 40% avaient eu des problèmes sur le programme, sur le
bien sûr,
faire le programme sur tel ou tel sujet.
Non, mais là c'est
et 25% c'est... des problèmes réguliers. 25%.
Bien sûr. Mais il suffit de parler avec Yannis Roeder. En fait, c'est on est dans le déni là aussi. Le problème, c'est que dans tous ces sujets-là, on est dans le déni. Ça n'existe pas. Et Monsieur Papendieck, la première chose qu'il dit, faut pas généraliser. Mais comme lui met ses enfants à l'école alsacienne. Évidemment, il ne s'en rend pas compte de la même manière.
Le rapport, le livre.
Qu'est-ce que vous voulez que je dise ?
Oui, ou alors il met ses enfants parce qu'il s'en rend très bien compte.
Robin, de 15 ans, il fallait la
Oui, il a 15 ans ce livre.
Mais bien sûr.
Déjà, il mettait le point.
Non, mais ce sont les tenants d'une idéologie multiculturaliste et progressiste où, fait, on est finalement dans une société victimaire où c'est toujours la revendication de minorité qui doit prendre le dessus sur l'unité du groupe. Et ça pose un problème.
Mais en plus, sur la question de la différence entre culture et culte, parce qu'il disait, alors je crois que c'était dans le reportage, ils prennent le prétexte de la culture pour parler sur le culte. Mais prenons-les au sérieux, c'est évidemment une question culturelle. Le problème, c'est que si vous renoncez à assimiler à une culture commune tous les petits Français, quels qu'ils soient, tous les enfants qui viennent à l'école, à les assimiler tous ensemble à une même culture, certaines cultures extrêmement fortes et revendiquées vont conquérir. Et là, on comprend que ce n'est pas simplement une question de « j'ai été élevé comme ça, donc sur tel sujet, je réagis ». C'est une offensive, non pas de partition ou de séparatisme, mais de conquête de l'école. Ils font pas des écoles à côté, etc. Ces gens, habillez-vous, il y a le détail. Hein. Mettez une abaya pour les jeunes filles, mettez une abaya à l'école, et pour qu'ils ne puissent pas vous dire que c'est une tenue islamique, mettez une ceinture par-dessus. C'est une question de mode, et comme nous, on est accrochés à l'alinéa 2 du tiret de la charte de je sais pas quoi, on fait comme si on voyait pas, parce qu'il y a une ceinture dessus. On ne voyait pas que c'était une offensive de conquête d'une culture étrangère. Et tant qu'on ne verra pas ça, en effet, tant qu'on acceptera ou revendiquera un modèle...
Regardez cette petite séquence sur les réseaux pour montrer comment infiltrer d'une certaine manière à l'école, comment faire entrer l'idée religieuse à l'école.
Ah, pourquoi vous m'avez fait une botte tenue trop
piscine ?
Va falloir que tu te changes.
Quoi ? Mais c'est pas que Chabona qu'avait adresse.
Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, KV Endress vous propose une abaya très spéciale. Celle-ci est super pratique pour les étudiantes en lycée, collège ou école, parce qu'elle est rétractable. Comme vous pouvez le voir, c'est une abaya à double tissu qui peut se transformer en tunique. Il suffit juste de rentrer la première couche dans votre bas et c'est fini. Bye bye les surveillants islamophobes.
Bye bye les surveillants islamophobes. Bon, voilà ce qui circule.
Ça, c'est des campagnes islamistes, on les voit. Voilà.
Bah, voilà ce qui circule.
Ça,
bon.
Le rapport.
C'est pour ça que c'était intéressant d'en parler. Et,
je crois qu'il y a une offensive, c'est pas encore la conquête, il faut peut-être pas exagérer quand même.
Oui,
c'est une offensive de conquête.
Pas conquis.
Bah, écoutez, en tout cas.
Une conquête, elle commence, hein. Une offensive, c'est déjà le début.
Vous savez, quand l'argent.
Bon, avançons.
Quand l'Union européenne finance des campagnes pour le hijab, je pense qu'on est au-delà de l'offensive.
La France insoumise. La France insoumise, évidemment, comme vous le savez, interrogée sur ses tweets hier. Jean-Luc Mélenchon a réagi, bien sûr. Mais avant cela, écoutons M. Bompard, qui était ce matin l'invité de Laurence Ferrari et qui a réagi sur l'affaire Quatennens.
Le mouvement que je représente ici a pris une décision qu'aucun autre mouvement politique n'a prise. C'est-à-dire que son coordinateur a été l'objet d'accusations et la décision a été prise qu'il se mette en retrait de sa fonction. C'est une décision forte, c'est un signal important qui a été envoyé. Il me semble que c'est un signal qui correspond à la réalité des faits qui lui sont reprochés.
Alors, on rappelle également Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé pour la première fois hier à la question de Paul Gagné, qui est un journaliste de l'émission Quotidien sur TF1. Est-ce que vous regrettez les tweets que vous avez publiés ? Jean-Luc Mélenchon a rétorqué qu'il pesait ses mots tout le temps. Et...
Heureusement.
Oui, c'est vous qui regretterez ce que vous êtes en train de me dire. Et puis, il a eu ce geste qui a été fortement commenté puisqu'il a donné une petite tape ou une petite claque légère, bien sûr, mais il a touché la joue du journaliste. Il y a beaucoup de réactions là-dessus, bien évidemment, parce qu'on sent qu'il est agacé, énervé, que sa nature lui joue une nouvelle fois un mauvais tour, sans doute, à M. Mélenchon. Il ne peut pas se contenir, il ne supporte pas la contradiction, etc. etc. Réaction de Alexis Corbière à cette séquence et à ce sujet.
Geste taquin, le journaliste ne s'est pas plaint. Si le journaliste a vécu ça comme c'est quelque chose de menaçant, je pense que Jean-Luc Mélenchon lui dira parce volontiers qu'il ne voulait pas le menacer. Je sais pas, vous savez, quand vous arrivez comme ça, vous êtes bousculé, il lui prend le bras, il lui prend la joue. Il est tout le temps critiqué sur son attitude, sans cesse, mais constamment. C'est-à-dire que, en permanence, nous avons un discours politique, on va y venir, on appelle à l'initiative, mais il y a tout le temps le petit geste, le fait qu'on a un bruit qui empêche souvent de que nous puissions nous faire entendre.
Geste taquin. Donc tu touches la joue d'un journaliste et tu as failli lui donner une claque.
Il est objectivement de mauvaise foi parce que la tactique de LFI, assumée, théorisée, c'est d'être constamment conflictuel. C'est d'être en opposition abrupte avec le reste des forces politiques et notamment la droite ou le gouvernement, etc. Et alors quand l'agressivité est dans l'autre sens, c'est de dire « bah non, on est tout le temps attaqué, vous comprenez, c'est faux ». C'est difficile, c'est dur, oui, d'accord, évidemment. Mais il faut. C'est qui sème le vent récolte la tempête, en l'occurrence. C'est une manière de faire de la politique. Et les filles n'est pas le seul à faire ça. Il y en a d'autres qui sont très agressifs aussi. Mais ceux-là ne doivent pas se plaindre que de temps en temps, ils prennent un retour de bâton. Enfin, c'est quand même la moindre des choses.
Toute petite réflexion sur la question institutionnelle. Le député, il est intouchable, vous avez remarqué. Le président de la République peut faire l'objet d'une procédure d'impeachment. Il peut être. Les ministres peuvent être démissionnés. Un député dont la parole n'est plus crédible ou audible peut rester en fonction et personne peut le démettre. Donc je pense qu'il y a une réflexion à porter là-dessus. Est-ce qu'on ne devrait pas aller vers un système où l'Assemblée nationale elle-même puisse décider, non pas laisser à l'intéressé...
Là, on était sur Jean-Luc Mélenchon. Mais...
Oui, mais ça me paraît encore plus important de se poser la question. Bon, Jean-Luc Mélenchon, on a tout dit, je crois.
Oui, il y a eu des réactions hier.
Je pèse mes mots à chaque fois, à mon avis, au tribunal, il va regretter cette phrase. C'est lui qui va la regretter. Hein.
Oui.
Bah, parce qu'à chaque fois, parce qu'on sait que c'est un homme qui s'emporte en permanence, qui
je pèse mes mots, bien sûr.
Mais je pèse mes mots à chaque fois. Alors ça, franchement...
C'est pour ça que les policiers, d'ailleurs, hier, j'ai vu un tweet passer, vont disent qu'ils se serviront de cette déclaration « Je pèse mes mots », puisqu'il avait dit dans son tweet « La police tue », etc. Donc il pourrait être effectivement condamné. Vous avez parfaitement raison de le souligner. On peut écouter Olivier Faure qui... monsieur, moins de 2%, hein, le PS, je le rappelle. Olivier Faure, mais bon, qui est à l'origine de la NUPES, qui, lui... a défendu, si tant est qu'on puisse défendre, cette séquence.
Cette présomption n'est pas irréfragable. Ça veut dire qu'en fait, il y a des femmes qui peuvent mentir et qui peuvent ensuite être démenties par la justice. Mais le premier réflexe,
pardonnez-moi,
c'est de
mais là, il a avoué. Donc, ce n'est pas à croire ou ne pas croire. Il a admis qu'il avait mis une gifle à sa femme.
Est-ce que vous connaissez le contexte dans lequel cette violence s'est exprimée? Moi, je condamne cette violence, évidemment. Je souhaite
Il y a des contextes qui la rendent plus acceptable?
Mais je ne sais rien. Enfin, sans doute avez-vous eu des gens autour de vous qui ont divorcé. Ça n'est pas toujours très simple. Et il y a parfois des échanges qui ne se font pas forcément uniquement dans la bienveillance réciproque. Je ne sais rien de ce qui s'est passé.
Bon. Non, mais c'est très intéressant parce que bon, le ton des questions des journalistes, vraiment, je ne peux plus. Quoi. Le procureur en chef, c'est insupportable. Mmh. Au-delà de ça, on est en train de découvrir LFI, le PS, tous ces gens qui nous ont expliqué pendant des semaines que tout ça était un continuum de violence et qu'à partir du moment où vous disiez mademoiselle, vous étiez déjà quasiment en train de légitimer la culture du viol, parce que c'était leur discours ces dernières années. Et alors là, c'est les princes de la nuance. Ils sont en train de rétablir. On a entendu Manuel Bompard ce matin nous dire qu'une gifle, ce n'était pas un viol. Merci Manuel Bompard, ça fait 3 ans qu'on essaye de vous faire dire. Donc ils sont en train de tout découvrir, tout, parce que ça les concerne directement et qu'ils sont en train de se rendre compte que les relations sont compliquées, que les hommes et les femmes, c'est complexe, que les relations, que l'amitié est parfois quelque chose d'empêchant dans l'analyse politique. C'est formidable, ils sont en train de grandir. C'est au moins...
Une parenthèse avant de reparler des thèmes d'actualité, notamment la Russie, Marie-Estelle Dupont. L'antimaire, c'est votre mère ?
Alors, l'antimaire, c'est la figure maternelle qui n'aime pas sa progéniture. C'est un récit à la première personne que j'ai écrit pour Albin Michel, qui est très fortement autobiographique, vous pouvez l'entendre dans mon émission, et qui aborde ce sujet un peu tabou, parce que finalement, depuis Folcoche, dans la littérature, on n'a pas tellement rencontré la mère qui est destructrice. Soit on a un discours très sentimentaliste, où la mère n'est que bonheur, qu'amour et qu'abnégation, soit on a un discours pseudo-féministe, où la maternité sera un esclavage qu'on devrait abolir, enfin bon, voilà.
Parce que Folcoche, c'est différent, parce que Folcoche va crever, c'était d'Hervé Bazin, elle n'aimait pas ses enfants.
Oui.
Est-ce que là,
alors là, la spécificité, c'est que je lève un tabou.
La mère n'aime pas sa fille. La mère est jalouse de sa fille.
Je lève le tabou de la jalousie que certaines mères peuvent avoir pour leur fille. Mais le récit s'adresse aussi aux hommes qui ont vécu la jalousie de leur père. Parce que j'en rencontre beaucoup chez mes patients.
De père pour leur fils.
Voilà, oui, tout à fait. Comment le parent du même sexe peut ne pas supporter de laisser la place et voit son enfant comme un rival et non pas comme quelqu'un qu'il est chargé d'éduquer et d'élever.
Bon, vivre sans avoir connu l'amour d'une mère, vivre en ne rencontrant chez sa génitrice que la persécution rend la confiance en soi et en la vie quasi inaccessible. Aux filles qui ont eu mon parcours, je veux dire que la honte et ce vêtement tissé par votre génitrice pour que vous osiez vivre même en son absence, un vêtement fait de ces mots qu'elle éructait, de ces regards qu'elle vomissait, de ces pensées qui vous souillaient, la culpabilité, ce poison pour lequel elle vous a gelé l'âme. Elle est vivante, votre mère ?
Oui.
Mais vous avez des rapports avec elle ?
Alors, j'ai choisi de ne plus en avoir le jour où j'ai compris qu'en fait, ce qui nous piège, c'est toujours l'ego. Et parfois, l'ego, il est mal placé et il vous fait croire que si vous coupez les ponts avec quelqu'un de votre famille, vous êtes forcément déséquilibré, c'est forcément de votre faute. Mais en fait, parfois, on doit une fille qui a été violée par son père, par exemple, elle doit couper les ponts parce que sinon c'est du masochisme et qu'évidemment elle ne peut pas se reconstruire. Donc quand on passe sa vie à attendre l'amour de quelqu'un, bah déjà on ne vit pas, donc moi j'ai passé 30 ans à attendre. Et puis un jour, il faut accepter la réalité. C'est possible qu'une mère n'aime pas sa fille. Ça ne veut pas dire que moi, je ne peux pas m'aimer, que je ne peux pas aimer mes enfants et que je ne peux pas être aimée. Donc, comme je n'ai pas envie de devenir quelqu'un qui ressent de la haine, de la colère, de l'énervement, je préfère mettre de la distance.
J'ai 12 ans, mon frère va se marier et ma mère m'emmène chez le coiffeur. Allez-vous, faut tout couper, ordonne-t-elle, métaphore de tous ces liens qu'elle fragmente pour mieux régner. Tout couper, 12 printemps, boule à zéro ou presque. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Pour que j'arrête de salir mes vêtements, les têtes d'oreiller, le plancher en perdant mes cheveux. Personne ne se demande au demeurant pourquoi je suis si souvent malade, pourquoi j'ai des cernes, pourquoi je perds mes cheveux, pourquoi je mange comme quatre et suis mec comme un clou. C'est que la perfusion commence à durer. En revanche, mes profs s'inquiètent, quelques figures bienveillantes, des mères, d'amis, des enseignants, mais en bon petit soldat, je les rassure. Mais votre père, il est où ?
Vous savez, mon père, il est de cette génération où on a fait croire aux hommes, à tort, qu'ils n'étaient là que pour ramener de l'argent et qu'ils n'avaient pas partie prenante dans l'éducation d'un enfant. Donc d'abord, il était très absent. Ensuite, j'étais une fille, donc il avait été assez présent pour mes frères, qui étaient nombreux, donc dans le livre, j'ai quatre frères. Dans le livre, je dis que nous sommes cinq parce que j'ai mis des petits décalages pour préserver, évidemment, des reconnaissances physiques ou autres, pour protéger ma famille, puisque c'est pas un livre contre, c'est un livre pour alerter sur ce qui peut se passer dans une famille quand, justement, un père ne voit pas ce qui se passe. Quand un père est manipulé, quand un père est sous emprise, quand il laisse tous les pouvoirs à une femme sous prétexte que c'est la mère et qu'il pense qu'il est juste là pour ramener de l'argent, alors qu'en réalité, être, je crois, un bon mari, un bon père, c'est aussi pouvoir poser une limite, mais comme une mère doit poser une limite à un père qui devient déviant. Je crois que mon père n'a pas vu, puisqu'il considérait que ma mère était stressée. Je crois que quand on rase sa fille et qu'on l'enferme dans le noir, on a dépassé depuis longtemps le stade du stress. Donc il n'a pas pu voir, il n'était pas outillé psychologiquement. Et je crois qu'il faut comprendre que l'emprise, elle se met en place sur un terrain d'ignorance aussi. Et qu'on doit mettre les bons mots sur les choses et aider leur père à prendre pleinement leur place. Nous les femmes, nous les filles, on a besoin de vous les hommes, parce que c'est aussi vous qui venez trianguler, mettre une limite, mettre un frein à une fusion mortifère parfois entre une mère maltraitante et sa fille.
Le visage de elle, acide, ridé et terne, me revient en mémoire avec ce rire hystérique sur ses lèvres souvent orange ou pourpre, pincées dans la dureté dès que la moquerie cynique s'éclipsait. J'ai perdu pendant des années le goût de la musique, j'ai cherché le silence, ne pas parler, ne pas pleurer, ne pas sursauter, ne pas bouger, seulement sourire, ne pas pleurer, seulement réconforter, ne pas manger, seulement nourrir, ne pas respirer.
Vous savez, vous êtes pris dans une injonction paradoxale quand votre mère ne vous veut pas de bien. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de rater, parce que sinon elle vous signifie que vous êtes une merde, mais vous n'avez pas le droit de réussir, parce que vous sentez confusément que si le téléphone sonne, que si vous brillez, que si on vous donne une place, elle va être jalouse. Et là, ça va être terrible, parce que vous allez perdre son amour. Donc vous êtes coincé, parce que vous ne pouvez ni réussir, ni rater. Donc vous vous invisibilisez. Puis un jour, en fait, vous apercevez que c'est juste de la jalousie, qu'il y a des mères qui n'arrivent pas à accéder à l'amour maternel, que finalement, aujourd'hui, je pense que la plus à plaindre, c'est elle, parce que moi, je suis maman. Et en fait, je me rends compte que l'amour d'un enfant pour sa mère est quasiment indestructible. Donc,
Mais elle-même, l'explication psychologique que vous avez, parce que vous êtes psychologue, elle-même reproduisait ce qu'elle avait vécu avec sa mère ?
Pas du tout. Vous savez, je crois que si tous les enfants maltraités devenaient des enfants maltraitants, ce serait simple. Pas du tout. Elle n'a pas vécu ça du tout, ma mère.
Mais alors, c'est quoi ?
Mais je pense qu'il y a des âmes plus sombres que d'autres, que le mal existe, que parfois il fait partie de la famille, et que finalement.
Mais avec vos frères, elle était dans
alors,
comme ça ?
Mes frères, il y avait cette différence de genre, de sexe, cette altérité que posait leur sexe de garçon, qui faisait aussi que mon père était beaucoup plus présent, donc ça mettait un frein.
Vous êtes la seule fille, hein ?
Je suis la seule fille. Maintenant, en fait, si vous voulez, ma mère, comme beaucoup de mères, a cru que sa fille allait être un prolongement narcissique d'elle-même, en fait, et que ça allait être son trophée. Et puis, à partir du moment où la mère voit que l'enfant lui échappe, elle perd pied complètement et elle a besoin de rétablir
un
contrôle.
Oui, mais dès l'âge de 10 ans, même l'âge de 10 ans, 11 ans, parce que là, c'était enfant.
Et même avant, elle n'a pas toléré que je sois une fille, en fait. Elle n'a pas toléré que je sois une fille. Donc, pardon, j'ai perdu votre question.
Non, mais...
c'est à la fois un message d'espoir et un message d'alerte. C'est-à-dire que je crois qu'il faut comprendre que dans le huis clos familial, mon maître de stage me disait une mère est capable de tout et parfois du pire, et de ça, un enfant ne se remet pas toujours. La maternité, c'est pas un permis de faire n'importe quoi. C'est ça que je veux dire. Et oui, on a besoin des hommes, on a besoin des pères. Il faut pas déconstruire comme ça les pères. L'homme a son mot à dire et l'enfant a besoin du père pour ne pas devenir complètement psychotique, parce qu'il y avait un vrai danger que, étant enfermée avec cette femme qui me coupait du monde et qui me disait que tout le monde était mauvais, que je ne devais pas aller vers autrui, qui me faisait perdre ma confiance en moi pour que je ne tisse pas de lien, j'avais un vrai risque de devenir complètement dépressive ou
combien
suicidaire.
Combien de fois vais-je devoir te répéter de ne pas t'appuyer sur les murs? Tu vas encore noircir la peinture, c'est insupportable. Mais tu ne peux pas te tenir droite à qui tu ressembles. Ma pauvre fille, tu verrais ta tenue là, t'appuyer sur le mur comme un mollusque. Aujourd'hui encore, je suis tendu des pieds à la tête. Je me redresse, je demande pardon. Je lui dis que je dois me remettre à ma dissertation. Mais elle va, elle vient hors d'elle, dans ma chambre, hurle, puis s'enferme en m'annonçant sa prochaine défenestration. Votre témoignage est...
La terreur,
mais ces familles, je vous hais.
La terreur... Non, pas du tout. Non, ah, alors,
non pas la famille, non, mais...
D'abord, mais moi, j'aime... Non, alors, d'abord,
en fait,
moi, j'aime mon père.
Je n'ai pas de statistiques, mais le nombre d'enfants qui ne parlent pas à leurs parents, c'est très important. Ce n'est pas 5%, c'est 10%. Beaucoup d'enfants de 40 ans ont coupé des liens avec leur père ou leur mère.
Moi, j'en
c'est
vois pas
très
beaucoup.
Fréquent.
Moi, j'en vois pas beaucoup en consultation.
Ah bon ?
Non, j'en vois pas beaucoup en consultation.
Bah parce que justement, ils sont guéris,
ensuite,
c'est pour ça qu'ils ont plus besoin.
Ensuite, il faut distinguer le conflit et la guerre.
Mais c'est assez fréquent, me semble-t-il. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont coupé des liens.
Mais pour
avec,
des raisons différentes, quand même.
Ah ben, bah, évidemment, bah, pour des raisons, sauf qu'ils... Comment dire, ils pensent qu'ils préfèrent vivre sans le lien du regard de leur père ou de leur mère parce que ce regard, ils ne le supportaient plus.
Maintenant, je crois que faire un travail sur soi en tant qu'enfant, mais aussi en tant que parent, c'est quand même le meilleur moyen de ne pas reproduire la violence, de ne pas la banaliser et d'arriver un jour à des relations harmonieuses quand c'est possible. Et puis si vraiment c'est
vous
pas possible, parce qu'il faut
votre
être
mère,
deux.
Vous la reverrez jamais.
Il faut être deux pour faire une
vous
relation.
Vous la reverrez jamais avant qu'elle ne meure.
Ah, moi c'est pas mon souhait. Moi je souhaite voir mes parents à la fin de leur vie, évidemment, et faire.
Et si elle vous appelait par exemple et qu'elle vous écoutait aujourd'hui, pourquoi pas, et qu'elle disait bah oui, effectivement, je me suis pas rendu compte peut-être.
Non, alors ça elle me l'a déjà fait, donc j'ai pas confiance en elle. Mais il y a une différence, si vous voulez, entre le pardon et l'oubli. C'est parce que je n'ai pas oublié que je mets de la distance. Ça veut pas dire que je lui veux du mal. C'est complètement différent.
Ah non.
Alors, en vous écoutant, bon. J'ai le sentiment que c'est plus anti-fille. Qu'anti-mère, c'est tout le problème vient de votre mère, pas de vous. Vous avez anti-mère, c'est une réaction de protection. Vous avez vous-même.
Non, mais
c'est...
Ah non, ça définit m'aider, non, ça définit l'anti-mère. C'est-à-dire qu'une mère, pour moi, c'est quelqu'un qui donne la vie, qui a envie que son enfant la dépasse, soit c'est plus heureux, là, soit bien. Ces femmes-là retiennent la vie. Elles n'arrivent pas à être femmes et elles détruisent leur progéniture.
Bon, l'antipère. Moi, j'ai remarqué, c'est idiot.
Hein, ah oui, alors il y a quelqu'un qui m'a demandé hier d'écrire l'antipère.
Moi, j'ai remarqué un truc tout simple. J'ai souvent remarqué que des gens qui ont eu des carrières absolument exceptionnelles, que j'ai vues ces dernières années, alors je ne vais pas citer de nom, mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de père pour un garçon. Comme si, tout d'un coup, le père était un frein. Alors, je ne vais pas citer les noms. Alors, ou le père était absent, ou le père était faible, ou le père... Et tout d'un coup, l'absence de père leur permettait de...
Non, ce n'est pas que ça leur permet, c'est que chez certains, comme ils guettent, ils cherchent toute leur vie la reconnaissance et un regard de père, oui. En ayant des réalisations exceptionnelles, ils ont inconsciemment l'impression qu'ils vont enfin mériter l'amour et la présence d'un père qui fait défaut.
Ah oui.
Voilà. Mais c'est un message d'espoir, c'est pour dire aussi aux femmes qui ont vécu la jalousie d'une mère qu'elles peuvent s'aimer, qu'elles peuvent devenir femmes, qu'elles peuvent devenir mères, qu'elles peuvent sortir en fait de cette angoisse permanente.
On marque une pause, vous devez partir, c'est pour ça que je voulais parler, évidemment de ce livre, L'anti-mère chez Albin Michel, le chemin d'une psychologue pour survivre à la jalousie maternelle. Et après la pause, eh bien, nous parlerons de la Russie, nous parlerons avec Noémie Schulz du verdict dans le meurtre de Julien Videlaine, et puis on parlera de François Hollande, votre ami, qui n'ira pas au Qatar. Il n'ira pas au Qatar, mais il ira peut-être plus au Parc des Princes non plus. Il ne veut pas aller au Qatar, il a dit. A tout de suite. Audrey Berthaud, il est 10h, le rappel des titres.
48 personnes soupçonnées d'être pyromanes ont été interpellées en France cet été. Selon la gendarmerie, 12 d'entre eux ont déjà été condamnés. La plus lourde peine, 2 ans de prison, a été prononcée contre un jeune homme interpellé en août et reconnu coupable d'une série d'incendies en Gironde. Au 17 septembre, plus de 65 000 hectares de forêt ont brûlé en France, notamment dans le sud-ouest. Plus de 6 Français sur 10 ont peur que Vladimir Poutine utilise l'arme nucléaire, 63% précisément, d'après notre dernier sondage CSA candidat pour CNews. Les réponses varient en fonction du sexe, de l'âge, mais aussi de la proximité politique. À gauche, 70% répondent oui. À droite, ils sont 58%. Enfin, une page de l'histoire du tennis se tourne. Roger Federer va jouer le dernier match de sa carrière aujourd'hui à Londres. Le Suisse jouera en double avec Rafael Nadal pour la Lever Cup. Début du match à 20h45, 21h45, heure française. Ils joueront contre les Américains Sock et Tiafoe, puis mettra donc fin à sa prestigieuse carrière à 41 ans.
Magnifique Roger Federer. Nous recevons Samy Biasoni, malaise dans la langue française. Promouvoir le français au temps de sa déconstruction. Plusieurs personnes ont écrit, Mathieu Bock-Côté, Jean-François Bronstein, Jean-Michel Delacomté, qui a écrit, spécialiste notamment du XVIIe siècle, qui a écrit des ouvrages très, très fameux. Malaise donc dans la langue française, et ce qui est amusant, c'est l'exergue, si j'ose dire. Oui, j'ai une patrie, la langue française, Albert Camus, mais qui songe à lutter vraiment contre la pollution de notre langage, qui est à notre intellect ce que l'air est à nos poumons. Monsieur Biasoni, la langue française est malade ?
Alors, je ne sais pas si elle est malade, mais en tout cas, nous faisons collectivement le constat d'un malaise autour de la langue française. Ça, c'est un fait assez nouveau. Il y a une crispation qui est en train de se produire autour de quelque chose qui n'était pas un sujet de discussion, de débat. Alors certes, la question de la féminisation, par exemple, qui est un sous-segment de la question très large de l'inclusivisme de la langue, c'est une question ancienne, une question qui date des années 80. Et l'évolution s'est faite dans le temps, et on en voit l'aboutissement. Mais là, on voit une accélération dans les termes du débat, dans les exigences vis-à-vis des locuteurs. C'est cela qu'on qualifie de malaise dans la langue française.
Alors, il y a deux choses qui menacent la langue française, l'écriture inclusive et puis le franglais, si j'ose dire. Si je résume.
Alors oui, le franglais n'est pas l'objet de l'ouvrage, puisque disons que Jacques Toubon est passé par là et qu'il a à peu près fait le ménage.
Mais c'est
vrai
que dans les entreprises, par exemple, c'est absolument incroyable. La
prolifération des anglicismes.
Le volapük qui existe. Mais c'est exaspérant.
Moi, je faisais traduire à chaque fois.
Mais c'est horrible, horrible, horrible. Bon. Mais l'écriture inclusive, c'est une horreur absolue.
Il y a une différence fondamentale entre les deux.
Bon, l'écriture inclusive, c'est idéologique. Et ce qui est dommage, une nouvelle fois, c'est que le gouvernement ne se bat pas. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, on sait qu'il est contre l'écriture inclusive, mais à l'université, on écrit en écriture inclusive et il n'y a pas de sanction. Ces gens devraient être virés.
Le propos vous appartient. Ce qui est sûr.
C'est un vrai scandale, en fait. C'est ça, la déconstruction. Mais on les laisse, on les tolère.
Ce qui est compliqué, le globish, l'anglais dans les entreprises, l'anglais dans le courant, personne n'oblige un locuteur à utiliser ces termes-là. Les gens, d'eux-mêmes, ont recours par souci d'efficacité, par pragmatisme, par conformisme à des termes d'origine anglo-saxonne. Ou parfois par nécessité, parce qu'il n'y a pas d'équivalent acceptable en français. Là, on est dans quelque chose de tout à fait différent. La question de l'inclusivisme, c'est une exigence de certains, d'une minorité, souvent militante, vis-à-vis de la majorité. C'est une exigence de mutation, de changement, d'adoption de nouvelles pratiques langagières. Et ça, c'est véritablement une césure entre les deux questions. Quant à la réaction du gouvernement, il y a eu deux circulaires. Une de 2017, c'est la circulaire Philippe, dite sur les traitant des administrations, mais en réalité, c'était absolument limité au corpus normatif du journal officiel. Donc, autant dire rien. Et ensuite, la circulaire Blanquer, de la même manière, qui enjoignait dans les enseignements de ne pas avoir recours aux formes inclusives. Autant dire rien.
Mais c'est ça qui est toujours
fascinant. On parle de la minorité.
Tu ne te bats pas. Moi, ce qui me sidère, c'est que tu ne défends pas ta culture, tu ne défends pas ton histoire, tu ne défends pas ce que tu es. Donc, effectivement, tu es débordé de tous les côtés. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais parlons de la Russie quand même. Avec la menace nucléaire, est-ce que vous avez peur ? Voyons le sujet de Yael Benamou.
Une large majorité de Français, 63%, ont peur que Vladimir Poutine recoure à l'arme nucléaire dans le cadre du conflit ukrainien. 37% ne sont pas effrayés. Une peur mesurée si l'on en croit le même sondage réalisé 6 mois plus tôt.
En mars dernier, ils étaient 76% à avoir peur du recours à l'arme nucléaire dans le cadre de ce conflit. Donc on voit que la peur a décru. La dernière fois, ils étaient 14 points de plus à avoir peur du recours à cette arme nucléaire.
La menace nucléaire inquiète toutefois les femmes à 70% contre 56% pour les hommes. Toujours dans le détail, la peur est plus présente chez les 65 ans et plus. 68% d'entre eux se disent effrayés. Les réponses varient aussi selon son appartenance politique.
Il y a une sorte de clivage politique avec une peur qui va être plus présente à gauche à 70% qu'à droite à 58%.
Les CSP-, c'est-à-dire les catégories populaires, ont à 70% peur de la menace nucléaire. Les plus favorisés, les CSP+, semblent moins inquiets. Eux répondent oui à 62%.
On va faire un sondage autour de cette table. Est-ce que vous avez peur de la menace nucléaire, Charlotte ?
De la menace nucléaire, oui.
Oui, bien sûr, c'est un peu idiot comme question.
Est-ce qu'elle va être utilisée, franchement,
Georges Fenech, c'est
du
bluff ?
J'ai peur, une anxiété, mais j'ai une inquiétude.
Oui.
Réelle, voilà. Mais je ne suis pas terrorisé aujourd'hui, quoi.
Monsieur Geoffroy.
Moi, je n'arrive pas à y croire. Mais
on n'arrive jamais à y croire, c'est les somnambules.
Oui.
Vous l'aviez lu, les somnambules ?
Oui, mais les somnambules, ça, c'est l'utilisation d'un bouquin qui est formidable sur la guerre de 14, dans une situation qui est très différente, quand même.
Ah oui, mais il y a des parallèles. Monsieur Béazini, vous avez peur ?
Non, parce que les gens qui disent ça, au fond, ça revient à dire il ne faut pas aider l'Ukraine parce que ça risque de faire une escalade. C'est ça qu'ils veulent dire.
Je ne vois pas en quoi c'est si différent que ça. L'assassinat à Sarajevo, personne au départ ne pouvait penser que ça aboutirait à un conflit mondial.
On pourra faire un débat, c'est très
bien. Oui, non, mais je veux dire...
Est-ce que vous avez peur de la menace nucléaire ?
Pas de peur, mais effectivement...
Non, mais c'est surtout que c'est une menace. Qu'est-ce qu'on fait face à cette menace ? C'est ça la question. Le problème de la dissuasion nucléaire, c'est qu'il faut dire en face, si vous utilisez l'arme nucléaire, vous prenez un grand risque parce que vous allez vous-même recevoir une bombe nucléaire.
Mais le problème,
c'est ça qui empêche l'utilisation de l'arme nucléaire.
Ouais,
si vous commencez à dire « j'ai peur », si vous l'utilisez, je ne sais pas très bien ce qu'on va faire, ça l'encourage.
Vous voyez des images.
On va vers l'utilisation dans ce cas-là.
Vous voyez des images qu'on a vues ce matin avec Marine Lançon qui nous ont touchés pour le coup, c'est les combattants sibériens. Vous avez peut-être vu ces images qui sont des images d'un autre âge. On a l'impression d'être dans un film de fiction. Voilà, regardez ces images, poignantes, émouvantes. Ce sont des Sibériens, des combattants sibériens, qui vont aller sur le front et qui disent au revoir à leur famille. Parce que la mobilisation, non pas générale.
Dans notre âge, c'est quand même des images qui existent dans tous les pays en guerre, malheureusement.
Oui.
Simplement que nous, la guerre est heureusement lointaine. Mais...
Regardez ces images absolument poignantes. Et ces femmes qui voient leur mari, parce que je rappelle que la mobilisation générale ne concerne que les hommes.
Que les militaires.
Que les militaires.
Et souvent la guerre, oui.
C'est fréquent.
Les féministes sont
moins revendiquées. Mais c'est intéressant parce que ça prouve que le nationalisme ne suscite pas forcément l'enthousiasme des peuples.
Mais
vous
n'avez pas raison.
Ils ne sont pas très
friands d'aller se battre. Mais personne, il n'y a pas un Français qui est prêt à aller se battre aujourd'hui pour...
Mais regardez les Ukrainiens, c'est une démocratie.
Ils ont été attaqués, c'est différent.
Ils se défendent.
Si tu es attaqué, tu te défends, mais tu n'as pas envie d'aller te battre pour le voisin. Tu as envie d'aller... Vous auriez...
les Russes, ils sont concernés par le conflit, c'est leur armée qui est...
Laurent Geoffrin, en fait, c'est pas...
Vous auriez envie d'aller, vous... Parce que c'est très bien, vous défendez l'Ukraine. Vous avez envie d'aller vous battre là-bas pour l'Ukraine ?
C'est pas la question.
Non, c'est pas du tout la question. Elle peut être intéressante,
cette question. D'envoyer les soldats occidentaux en Ukraine.
Par ailleurs, je reconnais le bon militant qui est en vous, mais simplement, le nationalisme, il est des deux côtés. En l'occurrence, les Ukrainiens qui vont se battre...
Non, je dirais que les Ukrainiens sont patriotes. Ils sont pro-européens et ils sont démocrates.
La fameuse distinction. Ouais.
C'est une distinction très importante. Le patriotisme, c'est un sentiment. Le nationalisme est une idéologie.
Ah, d'accord.
Okay. D'accord.
Et donc, au moment où on va se battre.
Vous pouvez dire d'accord, mais c'est vrai.
Mais c'est absurde. Vous pensez sérieusement.
C'est pas du tout absurde. Je peux vous démontrer pourquoi c'est pas absurde.
Vous pensez sérieusement que les Ukrainiens qui partent aujourd'hui se battre extrêmement légitimement, que leurs femmes ne pleurent pas au moment où ils partent se battre ?
Non, je parle de ceux qui ne veulent pas aller se battre. Il y en a qui manifestent contre la guerre, il y en a qui partent à l'étranger. Vraiment, ils n'ont pas l'air très galvanisés par le discours de Poutine. Il y en a certainement qui le sont, mais manifestement, la société russe n'est pas unanime pour dire que,
la panique
Russie
russe
est menacée dans son être.
Panique russe, justement, vous voyez le sujet.
La défense de Poutine est toujours intéressante.
J'avais pas du tout compris que vous vouliez en venir là, mais c'est simplement que vous dites, apparemment, le nationalisme fait pleurer les gens. Toutes les femmes du monde ont vu leurs hommes partir à la guerre en pleurant.
Je veux dire que c'est pas parce qu'on tient un discours nationaliste comme Poutine que ça convainc le peuple.
Bon, panique en tout cas. Panique russe, voyez le sujet de Sandra Tchumbo.
Sous le choc, comme cet étudiant russe, ils sont nombreux à avoir pris le départ pour l'Ukraine.
Je ne m'attendais pas à devoir partir aujourd'hui. Personne ne m'a rien dit. On m'a donné l'avis de mobilisation et dit que je devais venir ici à 15h. J'en revenais pas. Je suis sorti, j'ai appelé mes amis et mes parents pour leur dire que j'étais enrôlé. En plus, je suis toujours étudiant.
Je le regrette parce que le décret du président disait qu'aucun étudiant ne serait recruté. Et puis c'est arrivé. Ils l'ont recruté sans aucune explication. Ce n'est pas correct.
Si certains sont restés en Russie, d'autres ont décidé de fuir pour échapper à une éventuelle mobilisation partielle sur le front ukrainien.
Comme l'a dit notre ministre de la Défense, 1% de la population serait suffisant pour remplir l'objectif de la mobilisation.
La guerre est horrible. C'est donc normal d'avoir peur de la guerre, de la mort et de ces choses-là.
Ce jeudi, l'Allemagne s'est dit prête à accueillir des déserteurs de l'armée russe menacés de graves répressions.
Qu'on pouvait dire ce matin sur le.
Par ailleurs, je note que, pour revenir et pour clore le sujet, que là, c'est beaucoup plus une ambition impérialiste que nationaliste, hein, en l'occurrence. Comme à chaque fois, d'ailleurs, que ça finit très mal.
Je ne vois pas la distinction, parce que Poutine met en avant le fait que la Russie, dans son être, serait menacée par l'Occident. Oui. Et donc qu'il faut défendre Périndée à Canaver, la nation russe.
Oui, mais c'est impérialiste.
C'est ce que j'appelle un discours nationaliste. Mais l'impérialisme fait partie. On veut étendre la puissance de la nation, quitte à conquérir les voisins. C'est ça le nationalisme.
C'est ça le nationalisme, bien sûr.
Oui, c'est ça, exactement, bien sûr. Mais c'est vous ne donnez aucun argument et vous prenez un air supérieur pour dire que c'est ridicule.
Ah oui, oui, c'est clairement débat, parce que je sais pertinemment que vous savez, vous dites n'importe quoi. Laurent Geoffrin. Le fait de protéger sa nation, quand je vous dis que ça a mal fini à chaque fois, c'est que tous les totalitarismes du XXe siècle qui sont qualifiés par votre famille politique de nationalistes n'ont eu des visées qu'impérialistes, c'est-à-dire en dehors de leurs frontières. Donc oui, je vous souligne que là aussi, Vladimir Poutine a des visées impérialistes et non pas nationalistes.
Noémie Schulz.
Me disait François Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre.
Oui, François Mitterrand n'est pas Dieu lui-même, excusez-moi.
Il a une citation qui a eu un certain écho à l'époque.
Oui, oui.
Difficile à réfuter.
Je viens de le faire, mais c'est pas grave.
Noémie Schulz, le meurtre de Julien Videlaine, le verdict. Muitine Ulug, un restaurateur donc franco-kurde, a été condamné hier à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir massacré Julien Videlaine, le petit ami de sa fille à coups de couteau en 2014. On a suivi avec vous ce procès, Noémie. Il avait surpris le couple nu au domicile familial, c'est sa fille, donc, le petit ami de sa fille. La cour d'assises de l'Oise n'a pas suivi l'avocat général qui avait requis 30 ans. Et certains interprètent cela comme une excuse, d'une certaine manière, de la culture de M. Ulug, comme si dans sa culture, il n'était pas admis qu'on puisse tuer. Bien évidemment pas, mais que ça pouvait être une circonstance atténuante. Est-ce que je me trompe en disant cela ?
Oui, je pense que, je ne vous trompez pas parce que certains en font cette lecture, je pense que ça n'est pas le cas. La raison pour laquelle certains disent ça, c'est parce qu'effectivement, hier, la présidente de la Cour d'assises, elle a motivé ce verdict. On rappelle encore une fois un verdict rendu par 3 magistrats professionnels, des jurés tirés au sort, 4 jours de débat, c'est un peu plus compliqué que forcément les raccourcis qu'on peut faire. Et effectivement, dans ses motivations, elle dit que pour décider de cette peine de 30 ans de prison, on a pris en compte la gravité des faits, l'acharnement dont il a fait preuve sur la victime, mais on a aussi regardé son profil à lui. C'est un homme qui n'avait jamais été violent, jamais été condamné, qui se comporte bien en prison. Les experts psychiatres ont dit qu'il n'y avait pas de dangerosité, pas de risque de récidive. Et puis, a été pris en compte la raison de ce passage à l'acte. Les experts psychiatres ont expliqué qu'il avait eu un geste impulsif motivé par des facteurs émotionnels. Le facteur émotionnel, c'est le choc d'avoir vu sa fille nue avec un garçon. Et c'est là que le poids de la culture et de la tradition chez cet homme d'origine kurde a été pris en compte. Absolument pas parce qu'on dit, comme il est d'origine kurde, il avait le droit de prendre un couteau, il avait le droit de tuer ce jeune homme. C'est absolument pas ce que dit la cour d'assises, qui à aucun moment, cet homme n'avait le droit de faire ça. Ça a été dit, répété par l'avocat général, et c'est le sens de cette condamnation. En revanche, ce qui a été pris en compte, c'est le fait que cet homme, effectivement, qui a grandi en Turquie, qui est arrivé en France réfugié parce que menacé en raison de son origine kurde, eh bien, il a été horrifié par la vision de sa fille nue dans cette salle de bain avec ce jeune homme et qu'il a à ce moment-là, comme perdu la raison. Il l'a répété à plusieurs reprises. J'ai perdu la tête. C'est ce qu'il disait à travers son interprète. Et c'est ça, ce moment. Alors, il n'y a pas eu d'altération du discernement. Les psychiatres ont dit qu'il avait eu conscience de ce qu'il faisait. Mais il y a ce passage, ce basculement, un peu ce coup de folie à un moment parce qu'il n'a pas supporté cette scène. Et c'est ça, je pense, qu'il est important d'expliquer.
Et vous l'avez bien expliqué. Un mot à Georges Fenech ?
Oui, je peux comprendre les motivations de la cour d'assises, mais néanmoins, je suis quand même un peu sur ma faim. 20 ans seulement, je dirais 20 ans pour un crime aussi terrible, au bénéfice donc de circonstances atténuantes, si je comprends bien, qui sont d'ordre culturel quelque part. Hein. Ça n'a pas été dit de manière aussi explicite, mais c'est ça, quoi. Et ça s'est passé en France, quoi. Si on commence à tenir compte des cultures, etc., pour faire bénéficier de circonstances atténuantes, je pense que là, il y a un vrai sujet, quoi.
Bon, le parquet va faire appel en une seconde, Noémie.
Je ne pense pas.
D'accord.
Après, il faut savoir que s'il avait été condamné à 30 ans...
Une seconde, Noémie. Vraiment, on est très en retard. Donc, le parquet...
C'est important juste d'expliquer qu'il y aurait sans doute eu un appel de Muhittin Uluk s'il avait été condamné à 30 ans de prison et qu'avec cette condamnation, c'est aussi sans doute la fin du parcours judiciaire et la fin de la souffrance aussi,
ouais, enfin,
de la souffrance,
ans,
du parcours judiciaire pour la famille et que ça a pu aussi entrer en ligne de compte.
Donc, il sera sorti dans 10 ans. Voilà. Donc, il aura tué, effectivement, un jeune homme et il sera dehors dans 10 ans. Voilà. Bah, écoutez, c'est très bien. Les parents de M. Videlaine, effectivement, moi, je suis plutôt sur la position de Georges. Je suis un peu étonné aussi, même si les choses ne sont pas dites noir sur blanc, on comprend en fait que ces circonstances atténuantes sont liées à une forme de culture qui était la sienne. Merci en tout cas Noémie Schulz, merci beaucoup. Alors on est très en retard, il nous reste combien de temps? Il nous reste 12 minutes, donc je voulais juste parler le président Hollande qui ne veut pas aller au Qatar.
Il a
raison, il ne faut pas qu'il aille au Parc des Princes, il ne faut pas qu'il aille dans les
hôtels. Non, pas du tout, ce n'est pas pour ça.
Ah bon, il ne faut pas qu'il aille dans les hôtels qui sont détenus.
Non, mais il n'est pas contre le football. Hein, parce que ça...
Comment?
Il n'est pas contre, il n'est pas hostile au football.
Non, mais bon.
Il remarque, comme tout le monde d'ailleurs, que les conditions sociales et écologiques dans lesquelles les installations du Qatar ont été édifiées sont scandaleuses.
De toute façon, il a toujours raison selon vous, le président Hollande.
Non, pas du tout.
Écoutez.
Vous êtes désagréable. Hein.
Oui, c'est vrai. Écoutez.
Je ne peux pas demander à des joueurs de football, comme des sportifs en général, de ne pas aller dans la compétition à laquelle ils se préparent depuis des années et pour laquelle ils ont été prêts à consentir énormément de sacrifices. Donc la position qui dit « n'y allez pas » me paraît intenable. Ensuite, la position de dire aux téléspectateurs « ne regardez pas le match », heureusement que personne n'est derrière un téléspectateur pour savoir ce qu'il a à faire ou pas à faire. Enfin, ce que je pense, c'est que, compte tenu de ce que l'on sait des conditions de déroulement de cette compétition, notamment sur le plan climatique et des conditions de la construction, si j'étais chef de l'État, mais je ne le suis plus, donc ma position est facile, je ne me rendrai pas au Qatar.
Non mais...
Pas de commentaire parce qu'on est en retard. Malaise dans la langue française. Je suis directif. Samy Biazoni. Alors, c'est très intéressant, évidemment, votre livre. Et puis, il y a beaucoup de gens qui interviennent, des intellectuels, des universitaires, etc. Et parmi tous les gens qui interviennent, il y a Mazarine Pinjot. Donc, évidemment, c'est intéressant de lire Mazarine Pinjot. Et écoutez ce qu'elle dit, je trouve que c'est sidérant. Refuser l'usage de l'écriture inclusive dans le milieu dans lequel je travaille, l'université, est une forme de résistance silencieuse qui me place sans doute du côté des réfractaires et peut-être des fétichistes, qui sait. Enfin, cette phrase est folle quand même.
Ouais. Beaucoup est dit lorsqu'on lit cette phrase en réalité, parce qu'il y a une dimension, et c'est la dimension militante que vous évoquez et qu'on évoquait au début, dans cette forme d'écriture, dans cette forme de langage, il y a une forme d'injonction sous-jacente. Et une injonction à se positionner. Vous savez, les Américains parlent beaucoup de positioning. Positioning, c'est le fait d'indiquer ses avantages raciaux, ses privilèges d'ordre de genre, d'ordre de parcours, d'ordre de classe. C'est tout à fait différent de notre vision universaliste, indifférenciée, française. C'est tout à fait en dehors de notre culture. Et pourtant, nous sommes au même positionnement, nous sommes aux mêmes affichages. Et effectivement, malheureusement, l'université est aux avant-gardes dans la matière.
Vous vous rendez compte que dans la France d'aujourd'hui, si tu n'écris pas en écriture inclusive dans l'université, tu es ultra minoritaire.
Dans l'université ou certaines universités ?
Non, mais écoutez, dans certaines, refuser l'usage
dans certaines universités. Certaines, oui. Maintenant, on ne parle pas d'une minorité d'universités, un nombre certain d'universités. Voilà ce dont il s'agit.
Qui reste minoritaire.
Pardon ?
Qui reste minoritaire.
Oui, mais minoritaire, vous savez, on ne compte pas ces phénomènes en nombre, mais en influence et en intensité. Vous avez des universités extrêmement importantes.
Elles sont militantes. Je vous rappelle que Mme Rousseau était vice-présidente de l'université de Lille. Oui, mais enfin, vous vous rendez compte ? Vous dites oui, comme toujours d'ailleurs.
J'ai connu des responsables d'université qui étaient marxistes, léninistes. Ou maoïste, bon,
on sait que c'est ça relativement mal fini.
C'était comme ça déjà à l'époque. Dans les années 30, il y en avait qui étaient bien le sujet.
Alors, vous écrivez, c'est vous qui écrivez. À l'heure où les démocraties occidentales voient leurs principes cardinaux, au premier rang desquels la liberté d'expression menacée par certaines revendications identitaristes radicales liées à la race, au genre et aux sexualités, les débats sur la langue deviennent centraux, voire dans certains cas tout à fait décisifs. Faut-il écrire, par exemple, « Les Françaises et les Français sont talentueux » ou « Les Français et les Françaises sont talentueuses » ?
C'est la question de l'accord de proximité. Parmi les revendications liées à l'inclusivisme, il ne faut pas sourire. Parce que je pense que les personnes qui promeuvent ces idées prendraient relativement mal à sourire. Il
ne faut pas sourire, vous avez vu.
Vous avez souri.
Vous avez souri. Non, mais c'est très intéressant.
Ce que je veux dire c'est qu'en fait, je disais bien évidemment de manière tout à fait ironique, ça paraît insensé. Oui. Pourtant, ce sont des revendications réelles. Et en fait, on réduit souvent le débat sur l'écriture dite inclusive à l'usage du point médian, éventuellement à double flexion, c'est-à-dire de marquer systématiquement les deux genres. On a un président de la République qui est particulièrement friand, qui est incapable d'utiliser le masculin neutre générique. Mais en réalité...
Ça date du général de Gaulle, oui.
Non, parce que le général de Gaulle, lorsqu'il disait « française, française », c'est un vocatif, et ça revient exactement, lorsque vous entrez dans une boulangerie à dire « bonjour monsieur, bonjour madame », c'est la forme la plus élémentaire de la politesse. Et vous verrez que lorsque... Le général de Gaulle emploie la forme générique, il n'utilise pas systématiquement la double flexion. C'est la grande différence entre les deux, mais je pense que le président de la République n'a même pas conscience de la différence entre ces deux formes. Je suis sûr que vous, oui.
Mais le président de la République, il se soumet. Voilà, il veut pas d'ennui, donc il dit celles et ceux. Moi, j'ai compris la psychologie maintenant d'Emmanuel Macron. Pas de conviction, peu de courage, et l'espace médiatique, il n'y a que ça qui l'intéresse. Donc il sait que s'il dit celles et ceux, les gens diront « Ah, c'est un progressiste, le président de la République ». Mais celles et ceux, non, ceux. Je suis désolé de vous le dire. Comment ?
Ça dépend de la phrase.
Oui. Parfois, c'est effectivement. Mathieu Bock-Côté, qu'écrit-il ? Le conservateur modéré qui spontanément se sont étrangers à cette entreprise. L'inclusivité. Mais qui veut conserver bonne réputation en société ? Parce qu'il est soucieux de sa respectabilité mondaine et sociale, finira généralement par s'y soumettre. Certes, il adoptera une version light de l'écriture inclusive, une vision modérée en quelque sorte. Il évitera les « seuleux » et les « toustes », mais il commencera à utiliser le point médian, croyant par là faire une concession raisonnable au régime diversitaire et ainsi acheter la paix avec ses plus ardents turiféraires. Voilà, la soumission, parce que les gens n'ont pas beaucoup de courage. Donc évidemment, ils ne veulent pas... C'est toujours pareil, d'ailleurs.
C'est amusant, parce que j'ai vécu, avant de lire le texte de Mathieu, j'ai vécu la même chose dans le cadre de l'école normale supérieure. Effectivement, l'usage du point médian est extrêmement répandu. C'est-à-dire que là, il est majoritaire. Et alors, un email...
À l'école normale ?
Oui, de rue d'Ulm.
De la rue d'Ulm. Le point médian est majoritaire.
Oui. Je ne parle pas dans les enseignements, mais dans les usages, c'est-à-dire les pratiques courantes, dans les emails, effectivement. Il est majoritaire, ou en tout cas, il est extrêmement bien représenté. Non, j'ai bien dit, pas dans les enseignements.
C'est à titre privé, alors, c'est ça ?
Oui, sauf que vous savez que l'essentiel de la production textuelle...
Non, mais c'est pour comprendre.
Oui, vous avez, bien sûr. Pas dans les enseignements. Et c'est fort heureux. Simplement, j'ai vu un email passer, c'était bien avant, qui commençait par cher.e.s, et puis la personne, tout de suite, s'excusait de dire, pour des raisons d'économie, parce que je suis sur mon téléphone portable, je vais ensuite utiliser le masculin. Ça dit quelque chose de long. Et j'ai vu une variante de cela qui était encore plus incroyable. Mais ce sont des vrais faits. Hein. Je peux produire les emails. Mais c'est très intéressant en réalité. C'est pas simplement de l'anecdote. La même chose. Et puis la personne dire, pour des raisons notamment écologiques, puisque le point médian consomme plus d'électricité, consomme plus d'énergie.
Non, mais on est chez les fous, là.
J'ai ouvert mon email par cher.e. Je suis inclusif, mais. Et ensuite, il déroule.
Et vous pensez que. Parce que. Moi, j'aime pas l'écriture inclusive, mais bon, il y a des choses, il y a des points sur lesquels il y a des arguments.
Par exemple,
De citer les hommes et les femmes quand on parle.
C'est juste fatigant.
Oui, c'est un peu fatigant, c'est un peu lourd. On peut le faire une fois, et puis après on laisse tomber. Mais La féminisation des fonctions me paraît parfaitement légitime.
Alors, la féminisation, en fait, aujourd'hui, est rentrée dans les mœurs relativement largement.
Je pense que la langue évolue. Voilà. Je pense que l'écriture inclusive, c'est quelque chose d'organisé, de dogmatique, etc., qu'il faut appliquer d'un coup. Là, on est chez Orwell, moi, je suis contre ça. En revanche, que la langue évolue et que la langue tienne compte du fait que la place des femmes dans la société n'est pas exactement la même aujourd'hui qu'elle était il y a 30 ans. Ça ne me paraît pas scandaleux. Ça a toujours évolué, la langue.
Peut-être, Pascal Praud, si vous le permettez, je vous en prie, simplement, cette question de la féminisation de la langue, en fait, on inverse souvent corrélation et causalité. En fait, c'est parce qu'il y a des femmes qui ont accédé à certaines fonctions que les termes se sont féminisés. Vous savez, si la langue était sexiste, il n'y aurait jamais eu de physicienne, de mathématicienne, de directrice, et ça n'a jamais, je n'ai pas vu un débat sur ces sujets-là. Les titres, grades et fonctions, Madame l'ambassadeur posait problème parce que selon la forme attestée depuis 200 ans, l'ambassadrice est la femme de l'ambassadeur. Donc ça gênait. Donc en fait, on a beaucoup confondu les sujets. Oui, la langue accompagne les usages réels. C'est-à-dire on ne casse pas le miroir lorsqu'on n'est pas content de l'image qu'il renvoie.
Bon, en tout cas, c'est à lire et c'est très intéressant de vous lire. Malaise dans la langue française. Et vous-même, vous êtes docteur en philosophie de l'École normale supérieure, ingénieur civil des télécoms, diplômé de l'École des mines et de l'ESSEC. Donc vous avez piqué toute la matière grise du quartier quand vous êtes né. Et vous enseignez en tant que professeur également. Vous êtes conseiller politique, vous avez participé à plusieurs groupes de réflexion, etc. etc. Vous êtes un produit de... l'élite française sur le plan intellectuel, on peut le dire comme ça.
Non, de l'école républicaine.
De l'école républicaine. On va terminer cette émission, comme on la termine chaque vendredi, avec Philippe Labro. Ce dimanche, il recevra la comédienne Ophélia Kolb, qui est connue du grand public pour son rôle dans la série 10% et qui interprète un seul en scène. Et c'est l'adaptation d'un chef-d'œuvre de Stefan Zweig, La lettre d'une inconnue, que chacun a lu lorsqu'il était au moins étudiant au studio des Champs-Élysées jusqu'au 30 décembre. Alors, le seul en scène, comment ça se passe? La question est posée avec Philippe.
L'inconnu est joué par un autre.
Alors, qu'est-ce que ça impose d'être seul en scène?
Ça impose d'avoir aucune baisse d'énergie, déjà. On ne peut pas se reposer sur les autres et on ne peut pas avoir un petit œil qui frise avec l'autre de complicité. On est vraiment seul avec le public, ce qui est... J'ai découvert que c'était très agréable. Je m'attendais pas à... En fait, quand les portes se sont ouvertes le soir de la première et que moi, je suis arrivée sur scène, disons, le soir de la première et que j'ai vu tout le public, je me suis dit, waouh, ouais, c'est génial. J'ai autant de monde à convaincre, tous ces gens à qui je dois raconter l'histoire et d'être l'espèce de capitaine du bateau. Je m'attendais pas à prendre autant de plaisir. Donc, je suis assez heureuse.
C'est un bateau. Hein,
ouais.
Vous traversez... Un océan difficile, comme il y a des remous. Hein.
Ah ouais, il y a des remous, il y a des tempêtes, et puis il faut tenir la barre, il ne faut pas se laisser aller, parce que c'est un texte qui, on l'a vu pendant les répétitions, qui est, je peux facilement me laisser aller dans quelque chose de très triste, de très lourd, parce que le texte quand même appelle ça. Et avec Bertrand Marco, c'est lui qui m'a beaucoup fait travailler là-dessus, à tenir la barre du bateau et essayer d'avancer avec l'histoire et de raconter l'histoire et de ne pas se laisser aller dans « Oh là là, c'est horrible, on ne m'a jamais reconnu, je l'aime ». De raconter autre chose, quoi.
Labro a également invité Félicité Herzog, Clara Benader et Roxane Arnal. Donc c'est un plateau 100% féminin. C'est donc dimanche sur C8 vers 22h30. Avant de nous quitter, je voudrais vous montrer un livre vraiment absolument remarquable que j'ai lu cette nuit, parce qu'il faut toujours dire qu'on lit la nuit, comme vous le savez. J'ai lu ça cette nuit vers 3h. Ça s'appelle L'énigme du code noir. C'est un roman et c'est signé Laurent Geoffrin. Et puis qui me l'a très gentiment dédicacé. Cher Pascal, je me suis rangé à tes arguments conservateurs. Effectivement, je comprends l'erreur qui a été la mienne toute ma vie. Et je me sens aujourd'hui plus proche de toi et de d'autres que de ceux pour qui j'ai milité
ça
aussi longtemps.
Plaisir, ça.
Respectueusement, ton ami Laurent.
Rêver.
Peux-tu m'envoyer un mandala autre chose. Non, mais c'est très bien, l'énigme du code noir, mais bon, vous avez un talent d'écriture. Là. Je dis souvent que Philippe Lanson, dans son livre, il dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un écrire aussi vite que vous et aussi rapidement que vous. Vous faisiez des éditos comme ça dans Libé avec une rapidité d'un jet. Comme ça. Donc voilà. Vraiment, bravo à vous et vous savez tout le plaisir que nous avons à écouter, ce que vous dites sur ce plateau.
Rarement d'accord.
Bien sûr, mais les échanges avec Charlotte, d'ailleurs, vous devriez, je pense, vous produire tous les deux dans un échange, si vous voulez, qui serait, à mon avis, suivi fortement par les spectateurs. Audrey Berthoussé, Audrey, je l'ai vue ce matin. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, Audrey? Je suis monté dans l'ascenseur avec elle. Elle m'a dit, c'est vendredi. Voilà. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Audrey Berthoud m'a dit ça.
Les gens ne comprennent pas.
Elle m'a dit, c'est vendredi. Et j'ai vu dans son visage comme un plaisir à aimer cette journée. That's good, it's Friday.
c'est à vous.
Le prix du paquet de cigarettes pourrait augmenter l'année prochaine. Une décision qui pourrait faire passer le prix du paquet à 11 euros minimum, soit 70 centimes en moyenne. En plus, le gouvernement envisage de relever la fiscalité sur le tabac à compter de 2023, une mesure qui pourrait être intégrée au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Chaque année, 28 millions de rendez-vous médicaux sont gâchés en France. C'est une information publiée dans Le Parisien ce matin. Les patients réservent une consultation mais ne s'y rendent pas. Chaque jour, cela représente deux rendez-vous perdus par médecin. Le président du syndicat de l'Union pour une médecine libre demande une pénalité financière. Enfin, en Australie, les secouristes tentent de remettre à flot les derniers dauphins qui ont survécu après avoir échoué sur une plage de Tasmanie. 200 de leurs congénères ont déjà péri. Moins d'une dizaine de ces mammifères sont encore en vie. Les causes de ces importants échouages ne sont pas totalement connues pour le moment.
C'est des dauphins. C'est horrible. Merci à Audrey Misiraka qui était à la réalisation, merci à Bastien qui était au son, merci à Ludovic Liébar qui était à la vision, merci à Marine Lançon et à Justine Cerquera. Et avant de nous quitter, je voudrais vous signaler que demain à 10h, ne manquez pas Bonjour Docteur Millot. Brigitte répondra à cette question: est-ce que le café est bon pour la santé? Le docteur Martin Blachier, je pense pas qu'ils vont passer une heure quand même à répondre à cette question. J'espère qu'il y aura autre chose. Mais est-ce que le café est bon pour la santé? Le docteur Martin Blachier nous fera quant à lui un point sur la situation du Covid. Devons-nous nous préparer à une 8e vague? Donc réponse demain à 10h sur CNews. Merci à tous et rendez-vous lundi. Bon week-end.